Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
Quelle relation y a-t-il selon vous entre le scénariste et le conteur? Je rappelle d'ailleurs que vous abordez ce thème dans l'exercice du scénario.
Oui, grosso modo, le scénariste et le conteur d'aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on dit habituellement, c'est-à-dire qu'il a repris la fonction ancienne qui consiste à raconter des histoires, en supposant qu'une histoire dit des choses que rien d'autre ne peut dire. Des choses que la poésie ne dit pas, des choses que la philosophie ne dit pas, des choses que le roman psychologique ne dit pas. L'histoire dit des choses. Il se trouve que par le scénario, le cinéma, tout à coup, l'art du conteur au XXe siècle s'est trouvé multiplié par 10, par 1000, le nombre des gens qui l'écoutent. Et ça, d'une part. Et d'autre part, pour raconter ces histoires, le conteur du XXe siècle, le scénariste, est obligé de connaître le cinéma. Il est obligé de connaître les métiers du cinéma. Jusque-là, il devait connaître simplement l'art de la parole, éventuellement l'art de la musique qu'il accompagnait sur une place publique. L'art de l'écriture quand il l'écrivait au moyen de livres, de contes. Maintenant, il a dû apprendre cette technique supplémentaire et tout le problème est de savoir si l'apprentissage de cette technique et le fait qu'il la manipule, qu'il se sert du cinéma ou de la télévision, ne lui a pas fait perdre son ancienne qualité. Son ancienne qualité qui est humblement et anonymement, sans se mettre en avant, car le principe du conte, c'est qu'on ne parle jamais de soi. On met en avant d'autres personnages que soi, mais jamais soi-même. On ne dit jamais « je ». Ce qui est le principe même d'un scénario ou d'une pièce de théâtre. Ce sont des personnages qui s'expriment, l'auteur est soigneusement dissimulé derrière. C'est exactement le principe du conte traditionnel, qui n'est pas le principe du roman, de la poésie,
c'est l'opposé du nouveau roman.
Oui, l'opposé du nouveau roman, de la poésie, de toute voix personnelle. Mm-hmm. C'est là où réside la principale difficulté.
Justement, vous dites que le scénariste est plus cinéaste qu'écrivain, n'est-ce pas ?
Pour cette raison-là, c'est-à-dire que pour la raison qu'il doit connaître la technique du cinéma, il doit absolument savoir comment ce qu'il écrit va changer de support, va passer du papier à la pellicule. C'est l'opération la plus mystérieuse de toutes, celle-là. C'est l'opération réellement alchimique dans la composition d'un film. On change le plomb en or, on espère qu'on ne change pas l'or en plomb. Donc on ne va pas dans l'autre sens. C'est-à-dire on change le papier en pellicule. Ça suppose un processus technique extrêmement complexe qui introduit dans ce processus un grand nombre de techniciens différents qui sont tous surveillés et dirigés par un metteur en scène, et qui aboutit finalement à des comédiens. C'est ça le principal, c'est que le conteur traditionnel était l'auteur du conte souvent, et l'interprète du conte. C'est lui-même qui le délivrait, qui le disait. Aujourd'hui, le scénariste sait que ce qu'il écrit va se transformer en un autre produit et être raconté par des acteurs. Donc ça lui échappe, à un moment donné. C'est ça la véritable difficulté, et c'est pour ça qu'il doit être un cinéaste. Parce que dans un roman, entre ce que j'écris et le fait que vous allez le lire, il n'y a pas de changement. C'est toujours du papier. C'est toujours du papier, c'est toujours des mots, des phrases, ce que j'écris là, vous pouvez le lire immédiatement. Maintenant, surtout, où on écrit, où on peut l'imprimer directement chez soi.
Qu'est-ce qui fait que ce qu'on écrit puisse passer au cinéma, n'est-ce pas ?
Ça ne peut passer au cinéma que si c'est écrit pour le cinéma. Hein, il faut bien comprendre ça, c'est que ce sont deux écritures radicalement différentes.
Justement, est-ce que vous pourriez la différence entre l'écriture du scénariste.
Mais c'est très simple, l'écriture du romancier se termine avec le roman. Quand il a fini, le roman est terminé et il s'adresse à un certain nombre de lecteurs qui chacun prennent ce livre et en font une lecture personnelle. C'est-à-dire chaque lecteur transforme le livre qu'il lit et en fait son livre. C'est une multitude de livres différents. Donc le roman, c'est la fin de quelque chose, d'une aventure littéraire. Le scénario, c'est le début d'une aventure. La forme du scénario est une forme éphémère, provisoire, qui va disparaître. Le scénario va être jeté, va être brûlé, et va devenir un film, tandis que le roman est terminé. Et non seulement il va devenir un film, mais ce film sera vu par un groupe de gens, une pièce de théâtre, au le même jour, au même endroit. Et ils ne pourront pas s'arrêter à des pages différentes, sortir, quand ils sont emportés dans le même mouvement, et surtout, l'objet est différent. C'est devenu un film.
Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le scénario que vous avez écrit va être jeté?
Ça ne me fait rien de particulier. Absolument pas. Du moment qu'il est devenu un bon film. Il est fait pour ça. Mm-hmm. Il est fait pour ça dès le début. Il ne faut avoir aucune espèce de vénération pour un scénario.
Pour
c'est comme... Non, absolument aucune. Le scénario n'est pas fait pour être lu, du tout. Ni pour être publié. C'est un objet qui est fait pour devenir un film. Et qui donc doit comporter tous les éléments d'un film, un peu comme l'exemple que je donnais dans mon livre de la chenille qui contient tous les éléments pour être un papillon, mais qui ne vole pas, qui n'est pas un papillon. Alors, une fois que le papillon a pris son vol, la chenille s'est accomplie, elle s'est métamorphosée, elle s'est idéalisée, si le papillon vole bien, s'il est beau.
Et ça suppose évidemment un tout autre rapport au mot, c'est-à-dire à la narration, un rapport très particulier.
Extrêmement particulier. Par exemple, le cinéma est un art objectif.
Oui.
C'est-à-dire, contrairement à la phrase de Marcel Proust, qui est une phrase très longue et très introspective, qui paraît être composée et construite comme pour pénétrer tous les méandres d'un cœur ou d'une âme humaine, pour aller à l'intérieur de nous, le cinéma, par définition, étant un objet mécanique, reste à l'extérieur de nous. C'est un objectif, d'ailleurs, le mot le dit. Il se sert d'objectif. Tout ce qui, dans une écriture de scénario, pourrait s'appeler de l'introspection, est à éliminer systématiquement. On ne peut jamais dire « Jean-Pierre pense que » ou « se dit que » ou « il sent que ». Toutes ces expressions sont rigoureusement interdites dans un scénario. Un scénario ne doit écrire que ce qu'il est possible de montrer sur un écran. On peut dire « Jean-Pierre a l'air soucieux » parce que l'acteur peut le jouer. « Jean-Pierre se dirige rapidement vers la porte, il paraît pressé. » On peut le dire ça. Mais on ne peut pas dire « Jean-Pierre se dit qu'il est en retard. » Vous comprenez, c'est toujours ce type d'écriture qui est fondamentalement, radicalement différent, bien sûr. La maison est toujours pleine de monde, c'est pas dans ce...
Alors, dans l'exercice du scénario, vous comparez l'imagination à un muscle,
oui,
en ajoutant que celle-là, comme celui-ci, a besoin d'entraînement. Comment vous y êtes-vous pris vous-même dans votre vie? Comment ça s'est passé pour vous? Puis après, on va parler de la fin.
Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens plus âgés que moi, des véritables maîtres, qui m'ont appris à travailler. Par exemple, Jacques Tati, le premier avec qui j'ai travaillé, m'a appris le rapport avec la réalité, c'est-à-dire m'a appris à regarder différemment le monde qui m'entoure, à le regarder comme si tout ce qui se passe dans une rue était destiné à devenir un film comique. Et uniquement ça. On s'assied à la terrasse d'un café, on observe les gens qui passent et on se dit qu'est-ce qui pourrait leur arriver de drôle, hein, comme si le monde entier n'était là que pour donner naissance à un film. Ça, c'est une forme de vrai travail. De notre côté, il y a une autre forme de travail qui excite l'imagination, parce qu'il faut absolument imaginer quelque chose à partir de ce qu'on voit, à partir de quelques détails du comportement d'un personnage, d'un vêtement qu'il a, de son allure fatiguée, d'un maquillage excessif, de quelque chose qui nous frappe. La deuxième forme d'entraînement que j'ai plutôt apprise avec Buñuel, c'était au contraire, de s'isoler du monde, de se mettre dans un endroit calme, obscur, et de laisser les images vous envahir. C'est-à-dire de s'ouvrir à une espèce d'exploration, de laisser l'imagination aller dans toutes les directions possibles. Et on s'en rend compte en effet très vite qu'on peut développer son imagination, que les situations dramatiques que l'on croyait limitées à une trentaine au 19e siècle sont en réalité d'un nombre quasiment illimité.
Mm-hmm.
Alors, l'imagination est un muscle, mais parmi les facultés de l'esprit, elle n'est pas le seul. La mémoire aussi est un muscle. Tous les comédiens savent que la mémoire, ça se cultive. On peut faire de la gymnastique de la mémoire. On peut s'entraîner. Et que si un comédien qui n'a pas appris un texte de théâtre pendant 3 ou 4 ans, qui n'a pas fait de théâtre, a beaucoup de mal à réapprendre par cœur un texte. Beaucoup plus de mal qu'un acteur, par exemple, de la Comédie française qui connaît 10 textes par cœur à la fois, toutes les pièces du répertoire. Il joue dans plusieurs pièces à la fois, donc chaque soir il doit changer de rôle quelquefois deux fois dans la même journée, et il a en lui ce monde de mémoire. C'est vraiment comme un athlète entraîné, comme un athlète capable de courir à 5000 mètres tous les jours, tandis que d'autres seront épuisés après 1000 mètres. Vous comprenez,
c'est à cause de votre entraînement que vous réussissez à écrire tellement et tellement.
Mais je n'écris pas tellement, hein, contrairement à ce qu'on croit.
Énormément de films, énormément.
Pas beaucoup, non. Seulement, il faut se méfier. Il y a des pièces de moi et des films qui passent en ce moment qui ont été écrits il y a 25 ans. Alors, c'est tant mieux si on les ressort, mais j'écris beaucoup moins que Balzac ou Victor Hugo, pour prendre des grands exemples. Balzac est mort à 51 ans. Très jeune, il avait écrit à cet âge-là trois fois plus que ce que j'ai écrit aujourd'hui. C'est énorme. Je ne parle pas de la qualité, mais en quantité. C'était fantastique ce qu'on pouvait écrire autrefois. Diderot a écrit une pièce en trois actes entre samedi midi et lundi soir, en un week-end.
À votre avis, c'est pourquoi ? Quelle est la raison pour laquelle ces hommes-là pouvaient écrire avec cette... Je sais que Mario Andrade a écrit le Macunaïm en une semaine.
Oui, c'est possible.
Hein? Mais quelle est, à votre avis, la raison pour laquelle ces hommes étaient capables?
Ce n'est pas vrai de tous. Hein? Il ne faut pas croire que c'était généralisé. Par exemple, quelqu'un comme Flaubert avait au contraire de beaucoup de temps et de beaucoup de labeur. Il y a un grand poète persan, Hafez, qui est le considéré comme un des plus grands poètes de l'histoire de l'humanité, le plus grand poète de l'Iran. Il a écrit un seul livre dans toute sa vie. Un livre qui fait 300 pages. C'est tout ce qu'il a fait. Ça s'appelle les Ghazals, les refrains, les chants de Hafez. G-H-A-Z-A-L-S. Et Hafez écrit H-A-F-E-Z. Il y a aussi le fait qu'un homme comme... Diderot ou Balzac avait plus de facilité à s'isoler, était beaucoup moins dérangé s'il le désirait par le téléphone et par des visiteurs, et peut-être savait s'organiser par la presse, peut-être savait s'organiser mieux que nous. Encore que Voltaire, c'est prodigieux. Voltaire écrivait tous les matins une centaine de lettres qu'il dictait à trois ou quatre secrétaires à la fois, comme un joueur d'échecs qui joue avec quatre partenaires. Donc il commençait, ça suppose une agilité d'esprit, un entraînement là encore une qualité de l'esprit qu'il avait développée, parce qu'il faut à chaque fois se rappeler où on s'est arrêté la fois d'avant. Oui. Et Victor Hugo a écrit dans les 40 dernières années de sa vie une moyenne de 100 lettres par jour. C'est extraordinaire.
Mais il n'avait pas le téléphone.
Il n'avait pas le téléphone, bien sûr, ça remplaçait le téléphone. Sur ces 100 lettres, il y a une cinquantaine de billets, très courts. Mais il y a quand même plusieurs dizaines de lettres élaborées. C'est-à-dire que ça suppose chez un homme comme Hugo 3 heures de travail tous les jours pour son courrier. C'est dans une vie aussi remplie. Je vous avoue que c'est hallucinant. Moi, je ne sais pas comment Balzac a fait, par exemple. Balzac a laissé 40 000 articles et lettres. 40 000. Si vous divisez ça par le nombre de jours qu'il y a dans sa vie de 25 ans où il a écrit, vous verrez ce que ça fait par jour.
Ça veut dire qu'effectivement, c'est une question d'entraînement.
D'entraînement, probablement. C'est une question, oui, je crois qu'ils écrivaient très très vite. Et que plus on écrit, et certainement plus on écrit vite. Mm-hmm. C'est comme de tout, c'est comme un athlète, c'est comme, je ne sais pas, toutes les facultés que nous pouvons développer, sans doute.
Bon, alors que vous êtes aujourd'hui professeur de la FEMIS...
Je ne suis pas un professeur, je suis président. Mais
président,
en fait,
mais vous
oui, je dirige un atelier de scénario chaque année.
Dirigez un atelier de scénario. Vous y tenez, non?
Ah, beaucoup, oui, beaucoup.
Comment formez-vous vos élèves? Est-ce que vous pouvez me donner comme ça un aperçu de vos méthodes et de vos objectifs?
C'est très compliqué de faire un exposé sur la FEMIS, parce que ça prendrait 50 pages pour...
Alors, la formation,
d'abord, c'est une école technique, la FEMIS. Hein, c'est une école qui est faite avant tout pour redonner à la technique toute sa dignité. Ça, c'est la première des qualités qu'on nous a demandé, que tous les rapports et toutes les conclusions disaient la technique est en train de se perdre, la technique, il faut absolument la sauver et abandonner l'idée que le cinéma est une chose facile et que n'importe qui peut faire. D'autant plus que nous arrivons à l'époque de l'électronique et que l'électronique, on ne peut plus l'apprendre selon les méthodes d'autrefois. Il ne suffit pas de s'asseoir à côté de quelqu'un et de le regarder utiliser une table de montage électronique pour savoir le faire. Il faut le faire soi-même. Donc, il était absolument question de sauvegarder et de développer les connaissances les plus pointues possibles dans le domaine de la technique. C'est pour ça qu'il y a 7 départements qui couvrent à peu près toutes les techniques du cinéma et de la télévision. Ça, c'était la première des choses. La deuxième condition, c'était d'en finir complètement, et même de tourner complètement le dos à l'idéologie d'après 68, selon laquelle c'était aux étudiants de décider ce qu'ils voulaient apprendre, et on apprend ce qu'on veut, etc., qui a conduit deux générations à leur perte. Il y a vraiment, en Europe en tout cas, et en France en particulier, deux générations foutues, qui ne savent rien, qui tout simplement n'ont rien appris, qui ont cru que la vie était un jardin souriant, et qui se retrouvent en pleine crise, en pleine dépression aujourd'hui, une crise générale, avec le monde dans l'état que vous savez, dans l'état très alarmant où nous le voyons, et qui ne sont pas du tout armés pour résister, pour faire face. Donc, ce qu'on demandait de nous, c'était un enseignement très tenu, très dur, très rigoureux, et ce qui fait que les élèves sont, ça arrive très très rarement, parce que les élèves eux-mêmes le demandent. Ils ne sont pas fous, évidemment, ils s'en rendent bien compte. Mais il nous est arrivé, je crois, à deux reprises, de mettre à la porte, tout simplement, un élève pour absentéisme injustifié. La troisième absence non justifiée, c'est dehors. Oui, il n'a rien à faire là. C'est une école qui coûte très cher à l'État, très cher aux contribuables. Un élève de la FEMIS coûte 22 000 francs par mois à la communauté française. Donc, on se paye, la France se paye une école de haut niveau, de luxe, on peut dire. Nous sommes les étudiants les plus chers après les pilotes d'avion, à cause du matériel utilisé.
Vous pouvez parler un peu de la méthode d'apprentissage du scénario.
Ah, c'est de ça que vous voulez parler. Moi, je veux parler de la totalité de l'école.
Oui.
Alors, à l'intérieur de cette école, troisième point, il y a un département scénario et un département réalisation qui sont parmi les sept. Vous connaissez les autres, images, son, montage, décoration et production. Pour la première fois, on a introduit la production comme élément d'enseignement. Alors, le scénario, on pose souvent la question, comment on peut apprendre à écrire un scénario? Alors, par rapport à ce que je vous disais au tout début, ce qu'on peut d'abord apprendre à un scénariste dans une école, c'est comment on fait un film. Et comment on le lui apprend? En lui faisant faire des films. C'est-à-dire que les scénaristes de l'école, comme tous les autres étudiants, passent par tous les postes techniques. Le scénariste apprend à faire de la photo, du son, de la production, du montage, de la mise en scène. Il apprend à réaliser des films avant, dans le premier cycle, la première année, avant de se mettre même à son travail spécifique de scénariste. C'est-à-dire pour lui donner au moins un aperçu, un aspect de ce que son scénario va devenir après qu'il aura été écrit. Alors ensuite, il passe par une série d'ateliers. Moi, je suis une des étapes. Par exemple, il y a tout le rapport avec ce qu'on appelle le cinéma du réel. C'est-à-dire, il y a des scénarios de documentaires, ça existe. Il faut aussi passer par là. Comment on construit le scénario d'un film documentaire? Ensuite, il arrive dans l'atelier que je dirige et qui est un atelier qui réunit scénaristes et réalisateurs. Mm-hmm. Et le thème de l'atelier, qui dure 15 jours, c'est comment scénaristes et réalisateurs peuvent travailler ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble? Alors, comment on cherche une idée? Comment on développe cette idée? Comment on voit elle peut nous conduire? Et comment on en travaille les détails? Dans cet atelier, on fait de la recherche d'idées, on fait du travail et on fait même du découpage technique. Oui. C'est un travail d'atelier. Ça. Encore une fois, ce n'est pas un travail de cours, ce n'est pas un travail didactique. On part du pratique, on prend un certain nombre de situations très simples qui reposent toujours sur cette idée que ce que je leur demande, je les mets par petits groupes de deux ou trois et je leur dis, trouvez-moi une situation qui répond à ces deux obligations. Je vous donne un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Un désir, un personnage ou un groupe de personnages ont un désir, et à ce désir s'oppose un obstacle, celui que vous voudrez. Mais la seule condition, c'est que désir et obstacle soient aussi forts l'un que l'autre. Oui, et qu'à partir de là, on puisse construire un conflit et une histoire, une crise. Okay. Quelque chose. Alors, à partir de ces situations très simples, on commence à élargir le cercle, à travailler. On se lève, on joue, on improvise, on amène des caméras s'il le faut, on fait venir des invités. C'est un atelier très très vivant qui dure deux semaines.
On passe la différence entre la formation au métier de scénariste ici en France et aux États-Unis.
À vrai dire, il n'y a pas grande différence. Parce que dans les écoles américaines qui acceptent des scénaristes, toutes n'en acceptent pas. Il y a des écoles de cinéma dans le monde qui disent que les scénaristes, c'est pas des cinéastes. Et puis il y a d'autres catégories d'écoles, la majorité, je dois dire, qui acceptent les scénaristes. Alors le travail n'est guère différent. Moi j'ai travaillé dans des écoles américaines, nous avons des Américains qui viennent ici. Le principe de travail à la base reste le même. Je crois que chez nous, le rapport entre le scénariste et le metteur en scène est plus approfondi et plus développé qu'aux États-Unis où c'est plus séparé. Mm-hmm. Vous voyez, c'est-à-dire que toujours dans l'histoire du cinéma américain, je ne dis pas que c'est un bien ou un mal, le cinéma américain a souvent procédé par étapes. Le producteur a une idée, on fait travailler un scénario, on donne ce scénario à un metteur en scène, on enlève le film au metteur en scène, on le donne à un monteur. Vous voyez, et le cinéma français ou européen a souvent eu tendance à réunir en un seul mouvement cette composition d'un film.
Je voudrais vous poser une question au sujet du cinéma nouveau. Bon, Glauber Rocha, il fit un cinéma qui eut un grand retentissement avec juste une idée dans la tête et une caméra dans les mains. C'était son mot. Pensez-vous que ce serait possible aujourd'hui de faire ça, avec le retentissement que ça a pu avoir?
Non, en élargissant ça au Brésil tout entier. Le Brésil a fait un film l'année dernière. Le Brésil qui est un grand pays cinématographique, comme d'autres pays latino-américains, n'a pas vu venir la menace américaine du Nord. Ils n'ont pas compris, il y a 10 ans, qu'ils étaient en train de se faire coloniser complètement par le cinéma américain. Il n'y a plus. Alors la production par le cinéma américain du Nord, et nous nous servons, nous ici en Europe, très souvent de l'exemple de l'Amérique du Sud pour nous défendre, nous. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait une grande tournée en Amérique latine, j'ai fait un atelier en Équateur, puis je suis allé au Pérou, je suis allé en Argentine. Dans toutes les salles de cinéma de ces pays, je n'ai pas vu un seul film autre qu'américain. Le seul film que j'ai vu, c'était Cyrano de Bergerac. Je n'ai pas vu un seul film argentin, pas un film brésilien, pas un film péruvien ou équatorien, inutile de le dire. Donc, là, le grand problème, d'abord, c'est comment un pays comme le Brésil, qui fait du cinéma depuis 1908, c'est-à-dire c'est vraiment très ancien, il y a des films brésiliens, et j'en ai vu de très beaux, de l'époque du cinéma muet, qui a connu toute une histoire du cinéma, à la fois de fiction, de documentaire, qui a connu ce formidable mouvement dont vous parliez, qui était le cinéma nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné un groupe, et Glauber, que j'ai bien connu, était un ami, n'était pas le seul, il y avait autour de lui un groupe de gens qui ont réellement bouleversé de fond en comble le cinéma brésilien, qui lui ont donné une nouvelle vie, qui l'ont fait connaître dans le monde entier, et comme vous disiez, avec une caméra et une idée. Elle est très profonde, la parole de Glauber, parce qu'elle veut dire qu'une idée seule ne suffit pas. Il faut savoir se servir d'une caméra. Et une caméra seule ne suffit pas. Il faut avoir une idée. Oui, il faut faire très attention à cette formule, car elle a beaucoup, beaucoup de résonance sous une apparence. C'était une formule très réfléchie, en fait. Oui. C'est-à-dire, un cinéaste, c'est un homme complet. Il a un moyen d'expression qui est la caméra, mais il a quelque chose à dire. Vous comprenez, alors, ce qui est pour moi...
Est-ce qu'on pourrait, à l'heure actuelle, faire des films comme...
Je connais des cinéastes brésiliens qui me disent qu'à l'heure actuelle, dans l'état actuel de la production brésilienne, faire un film au Brésil, c'est une entreprise héroïque. C'était héroïque. C'est vraiment, il faut
des amis... Il a fait ses films avec peu de moyens.
Je sais, alors, c'est probablement la seule façon de faire du cinéma aujourd'hui, serait de repartir, de retrouver un groupe de jeunes cinéastes ardents et décidés à faire du cinéma, et qui arriverait, alors là, il y a un grand point d'interrogation, qui arriverait à trouver un public. Est-ce que dans les 160 millions d'habitants que comporte le Brésil, moi je suis absolument sûr que ce public existe. Je connais beaucoup d'amis brésiliens, je suis sûr qu'il y avait un nouveau cinéma parlant vraiment du Brésil. Hein, parce que c'est extravagant. Le Brésil est un pays qui connaît des aventures extraordinaires depuis quelque temps. Pas un film ne nous en parle. Hein, ce que l'on voit des telenovelas, ça c'est toujours du sirop, c'est toujours des choses qui nous parlent de tout sauf du Brésil. Sauf des vrais problèmes du Brésil. S'il y avait aujourd'hui, ça ne peut pas être un individu. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes cinéastes brésiliens qui peut-être nous écoutent ou peut-être vous liront, c'est toujours un petit groupe de gens. C'était le cas pour la Nouvelle Vague, c'était le cas pour le cinéma nouveau, c'était le cas pour les surréalistes, c'était le cas pour les romantiques, pour les poètes élisabéthains. Il y a toujours, dans tous les siècles, un petit groupe de gens qui, mystérieusement, à un moment donné, se réunissent. Ils sont quelquefois pas plus de 5 ou 6. Ils mettent leurs forces ensemble et ils arrivent à trouver le public de leur génération. Alors ça, c'est ça qu'il faut souhaiter. Surtout ne pas tenter d'expériences solitaires elle sera tout de suite contrecarrée par la toute-puissance américaine du Nord qui va immédiatement les repérer et immédiatement les descendre. Ça, sans pitié. Il ne faut pas compter sur la moindre pitié du commercial empire qui est au Nord.
Bon, vous êtes un homme de cinéma, mais vous êtes aussi un homme de théâtre. Donc, je vais vous poser une question sur le théâtre brésilien. Et puis, vous pourriez peut-être parler de la pièce, l'aide-mémoire, qui va apparaître à Rio le 13 mai. Alors, sur le théâtre brésilien, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Est-ce que vous, je m'imagine que vous le connaissez.
Le théâtre brésilien est comme le mouvement théâtral dans l'ensemble du monde. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, au Brésil comme ailleurs, on annonçait la mort du théâtre. Et on disait le théâtre va être tué par la télévision, par les satellites, par les câbles, par tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est le contraire qui s'est passé. De toutes les formes d'expression, actuellement, au Brésil comme ailleurs, le théâtre est la plus vivante, la plus forte. Il a de plus en plus de spectateurs chaque année, de plus en plus de pièces. Il y a au Brésil, je connais au moins 4 ou 5 groupes de théâtre passionnants qui font des spectacles formidables, qui viennent en France, qui viennent en Espagne, qui se baladent un peu partout.
Ici.
Oui, bien sûr, etc. Moi, je suis très ami avec, Julia Gam, par exemple, cette jeune comédienne que j'aime beaucoup. Il y a vraiment des gens très, très, très... Avec Chucha Lopez, la femme de Babin. Chaque fois que je vais au Brésil, je vais au moins voir un ou deux spectacles par semaine de théâtre. Et c'est très passionnant. Là, c'est pour ça, c'est ce qui me fait dire que ce qui se passe au théâtre pourrait très bien se passer au cinéma. Alors, l'aide-mémoire est une pièce qui n'est pas une pièce contemporaine, c'est une pièce qui a 25 ans d'âge. C'est une pièce à deux personnages qui reste une pièce que j'aime beaucoup, mais qui est écrite dans un autre temps. Comment elle va être montée, comment elle va être jouée, c'est une pièce qui peut être tirée dans beaucoup de directions différentes. Elle est assez souple. On peut la tirer vers la comédie, voire la comédie de boulevard. On peut au contraire en faire une pièce plus renfermée, assez cruelle et assez secrète. Je ne sais pas du tout comment ils vont la monter, mais je ne peux que leur souhaiter bon vent, comment dire.
Une dernière question au sujet du carnaval. Pour reprendre l'expression de l'ex-carnavalier de l'école de samba Beja Forjons Nutrit, le carnaval brésilien est un opéra des rues. Il y a des dramaturges et des directeurs de théâtre étrangers qui se sont rendus au Brésil rien qu'à cause du carnaval et pour y renouveler leur inspiration. Qu'est-ce qu'un dramaturge peut, à votre avis, apprendre de cet opéra des rues brésilien et comment devrait-on la filmer?
Il a certainement moins à apprendre, vous avez posé la question des dramaturges, moins à apprendre qu'un metteur en scène ou qu'un metteur en image. Car dans un carnaval, le carnaval n'est pas fait pour une dramaturgie. Il n'est pas fait pour... Il n'y a pas une action qui se déroule avec une montée dramatique. Le carnaval, c'est avant tout un défilé d'images. Oui. C'est quelque chose qui passe et qui tire toute sa mélancolie et toute sa métaphysique secrète du fait qu'il est toujours de passage. C'est-à-dire qu'il ne reste pas. Que vous voyez quelque chose de magnifique et de plein de vie et d'énergie, mais le moment où vous le voyez, c'est déjà passé. Et quelque chose lui succède. Le carnaval, c'est le mouvement du temps dans la rue. C'est quelque chose dont, d'ailleurs, les gens sont très conscients quand ils le font, quand ils le préparent. Ils savent qu'ils se préparent pendant un an pour un jour, même pour un soir, et qu'ensuite,
et que tout doit être exactement.
Les
allégories sont faites
absolument,
pour une année.
Absolument, tout est fait. C'est la même chose en Inde, où on noie les statues dans le fleuve après la fête. Vous voyez, il y a quelque chose d'un sacrifice. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'il y a...
Mais n'y aurait-il pas une manière de filmer cet événement beaucoup plus qui pourrait le révéler beaucoup mieux?
Moi, je crois que si j'avais à le filmer, un carnaval, mais je me dis encore une fois, je ne suis pas un filmeur, je suis un auteur, je ferais le contraire de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, ce qu'on voit du carnaval ici, c'est des bandes d'actualité, de gens qui vont faire un reportage et qui choisissent dans toute la parade des images qui paraissent le plus sexy, le plus baroque, les plus ornementales, et qui en font un petit montage. Ce qui est très intéressant, ce qui est totalement coupé le carnaval de ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire la lente préparation d'une année.
Je crois conception,
la conception. Fait. Faire un film sur le carnaval, il faudrait prendre une ou deux personnes, et les suivre pendant un an, le soir du carnaval, et les retrouver très brièvement le lendemain. Vous voyez, je crois que ce n'est que de cette manière qu'on pourrait en donner le sens.
Voilà. C'est-à-dire qu'il faut taper
c'est sur une, c'est un opéra de la rue. C'est un opéra de la rue, mais c'est une allégorie de la vie. C'est aussi une allégorie de la vie.
C'est une allégorie de la vie.
De la vie comme une fête passagère.
Et ça, ce film, il reste à faire.
Il reste, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des cinéastes qui l'ont fait.
Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que...